Bienvenue à Un festin d'idées, un podcast qui explore la philosophie et les pratiques d'une éducation Charlotte Mason. Moi, c'est Annie.
Et moi, Fanny.
Aujourd'hui, dans notre série Sujet par sujet, nous abordons le sujet de l'éducation à la citoyenneté. C'est déjà notre 21e épisode. Peux-tu y croire, Fanny?
Ça vient meilleur. Moins gênée. La citoyenneté n'est pas un sujet très populaire, il me semble. On se préoccupe beaucoup plus de réaliser nos rêves, de nous assurer que rien ne peut nous arrêter, qu'on peut se préoccuper de nos devoirs à remplir en tant que citoyen. On veut s'assurer que notre prochain nous respecte nos droits. On met rapidement des relations de côté parce qu'on considère qu'elles nous empêchent de nous épanouir ou d'atteindre un certain niveau social ou professionnel. On choisit un gouvernement selon ce qu'il pourrait nous apporter personnellement. Et tout ceci n'est pas mal en soi. Mais disons que la société dans laquelle nous vivons nous pousse bien souvent à nous inquiéter beaucoup plus de notre nombril.
Malgré cela, beaucoup de parents reconnaissent l'importance de former chez leur enfant un sens des devoirs et des responsabilités qu'a l'individu envers l'État et envers son prochain. Nous savons qu'il est bon d'éveiller en chaque enfant la conscience que lui aussi est un citoyen. Lui expliquer ce que ce terme implique, quels droits et quels privilèges il partagera, mais aussi qu'il aura comme devoir d'utiliser son énergie et sa réflexion pour contribuer au bien-être de la communauté. L'enfant d'aujourd'hui est le citoyen du futur. Peut-être même l'homme ou la femme d'État du futur. Quelqu'un qui aidera à diriger son pays et à faire respecter ses lois. En réalisant cela, on ne peut que réaliser l'importance de traiter ce sujet comme une partie intégrante de l'éducation de nos enfants. C'est une grande et une sérieuse responsabilité pour le parent ou le professeur.
Nous avons choisi pour traiter de ce sujet de nous inspirer d'un article publié dans la revue Parents Review, intitulé « How we teach citizenship ». Il a été écrit par Laura Fons en 1913, une femme d'importance dans l'histoire du PNEU. Elle a été formée par Miss Mason elle-même et a fondé sa propre école PNEU en 1906. Elle l'a dirigée pendant 41 ans et elle fut appréciée par ses étudiants, si on en croit les paroles écrites en son honneur à sa mort. Ses articles, dont celui-ci, est son héritage. Nous vous mettrons un lien vers son article original, immortalisé sur le site de Charlotte Mason Poetry. Afin de faciliter la fluidité du texte, nous nous sommes permis de le moderniser et de le commenter.
Dans son sens le plus large, la citoyenneté englobe un si grand nombre de domaines que nous ne pourrons pas tous les aborder de façon exhaustive. Nous parlerons de quelques-uns de ces domaines et tenterons de proposer des suggestions sur la manière dont nous pouvons aborder le sujet et mener cette formation à bien.
En premier lieu, nous devons essayer d'aider l'enfant à établir pour lui-même les relations qui doivent tôt ou tard faire partie de sa vie, c'est-à-dire sa relation avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. C'est d'ailleurs le 12e principe de Mason, et cet aspect de l'éducation de l'enfant est important parce qu'une grande partie de la formation de son caractère et de sa personnalité en dépend. Ces trois relations, soit ses relations avec lui-même, avec les autres et avec Dieu, forment un tout si complet qu'on peut difficilement accorder une plus grande importance à un aspect en particulier plus qu'aux autres.
L'auteur de l'article nous dit « Comment pouvons-nous reconnaître la valeur des choses de Dieu si nous ne réalisons pas la valeur de celles qui nous concernent personnellement? Et cela n'est-il pas vraiment mis en pratique par le service rendu à notre prochain? » L'exercice de la maîtrise de soi, la réalisation de notre dégradation, le sens des proportions ou encore la façon dont nous avons de relativiser les choses et le courage d'être fidèle à nous-mêmes agissent sur notre compréhension de ce qui est dû aux autres, c'est-à-dire la justice et la tolérance, et nous permettent de prendre en compte leurs besoins et leurs opinions. Et ceux-ci, les autres, ne sont-ils pas à leur tour influencés et amenés à se réaliser par notre exemple, allumés par le souffle de Dieu qui purifie les motivations et crée le désir de nous mettre à son service par le biais de nos relations avec nos semblables.
En d'autres mots, nos relations avec les autres dépendent de notre relation avec Dieu et notre relation avec nous-mêmes. Si, animés par notre relation avec Dieu, nous tentons de mieux nous maîtriser, de nous juger nous-mêmes de façon juste, d'avoir le courage de nos idées et de nos opinions, il est logique de croire que notre façon d'agir influencera notre relation avec les autres en les influençant à notre tour. Tout est relié, d'où l'importance d'agir avec justice et tolérance. Ce que nous vous avons décrit, c'est l'aspect spirituel et moral de la formation à la citoyenneté dont dépendent les leçons les plus directes sur le sujet. Sans cet aspect moral et spirituel, les leçons perdent leur valeur.
Charlotte Mason nous dit « Les enfants qui sont familiers avec la grande idée de l'État au sens du peuple et non au sens du gouvernement, apprennent assez facilement les lois, les coutumes et la gouvernance de leur pays. Ils en apprennent également sur eux-mêmes, sur leur esprit et leur corps, sur leur cœur et leur âme, et ce, avec grand intérêt, car ils sentent qu'il est bon de savoir ce qu'ils ont en eux-mêmes à donner à leur pays.
Maintenant, parlons des méthodes employées dans les écoles Mason pour enseigner la citoyenneté.
L'enseignement devrait se faire de façon indirecte, sauf pour ce qui traite expressément du fonctionnement du gouvernement et des faits les plus évidents de l'économie. Donc, presque tous les aspects de la citoyenneté peuvent être abordés au travers des autres sujets à l'horaire et de la vie quotidienne, à part peut-être ce qui touche au fonctionnement du gouvernement, comme je l'ai dit, et à l'économie, qui sera enseignée principalement en utilisant des livres vivants et la narration. L'aide la plus précieuse que nous puissions apporter à la création de relations chez l'enfant et au perfectionnement des fondements qui forment un citoyen engagé est de présenter à l'imagination des idées vivantes qui démontrent la maîtrise de soi, le sacrifice de soi, la reconnaissance du Créateur tout en tenant compte du bien de ses créatures. Ces idées aideront l'enfant à s'identifier à la vie sociale, communautaire et nationale, à être un bon patriote, à être un gardien attentif de l'honneur et de la justice dans son pays, à avoir un raisonnement et un jugement équilibré, à avoir une vision large des problèmes sociaux et politiques, et surtout à exercer une grande tolérance et à respecter les droits et les opinions des autres. Tout ceci devrait déjà se retrouver dans les livres lus dans une éducation Charlotte Mason, d'où l'importance de bien choisir ce que nous mettons devant les yeux de nos enfants. S'ils ne sont pas touchés par une idée, ils ne tireront pas de leçons de leur lecture.
La matière devrait, comme nous le disions, être pour l'essentiel enseignée au fur et à mesure que l'occasion se présentera. Ne vous inquiétez pas, elle se présentera encore et encore dans le programme scolaire régulier, en histoire, dans les biographies, dans les contes de fées, en poésie, entre autres. L'enseignant devra toujours être à l'affût d'opportunités de diriger l'attention de l'enfant vers tout ce qui concerne la conduite des affaires et la relation des citoyens avec le peuple ou l'État.
Cette direction, cette orientation de perception et non d'opinion, exige du tact et du jugement. Nous ne pourrions trop insister sur cette mise en garde. Il faut éviter toute tentative d'imposer nos opinions. L'enfant doit développer son sens critique et ses propres opinions s'il veut être capable de défendre ses idées et ses choix.
Mason nous dit dans son volume 4, « Il n'y a guère de meilleur équipement pour un citoyen qu'un esprit capable de discerner la vérité. » Que ce soit du côté de notre parti ou de celui de nos adversaires. Mais cet esprit juste ne peut être préservé que par ceux qui tiennent compte de ce qu'ils entendent et de comment ils l'entendent.
Il faut cependant être prudent. L'attention portée à répétition au même sujet. Quand on a quelque chose qu'on aimerait que nos enfants apprennent puis qu'on trouve toutes les occasions dans les lectures de ramener ce point-là, toujours de taper sur le clou, ça peut susciter des sentiments d'agressivité ou même de dégoût. C'est pourquoi les méthodes utilisées doivent être variées et le plus captivantes possible. Elles doivent piquer la curiosité de l'enfant et être un petit extra, charmant et précieux, qui sera apprécié pendant la leçon. Il faut aussi faire attention à nos intentions, parce que certains aspects du sujet de la citoyenneté peuvent très facilement se transformer en terrain fertile pour sermonner. Il est donc important de se rappeler que toute moralisation doit être évitée.
C'est d'ailleurs aussi pourquoi on évite certains livres qui disent, par exemple, « Le courage », et là, on va lire une histoire sur le courage.
Ou quand l'histoire termine en nous expliquant la morale de l'histoire.
Oui, parce qu'on veut que l'enfant puisse lui-même arriver à certaines conclusions, être capable de défendre ses idées, ses opinions, comme on disait plus tôt. Mais pourquoi est-ce que c'est important de ne pas moraliser? Si notre but, justement, c'est que notre enfant apprenne quelque chose, on ne le fait pas de façon intentionnelle en choisissant un livre sur le courage, mais peut-être qu'on va choisir l'histoire du fondateur des entreprises Virgin. Parce que lui était dyslexique, à 16 ans, il quitte l'école, il décide de partir ses entreprises sans jamais lâcher, toujours avec beaucoup de courage, de persévérance, sans jamais craindre les autres, il fonçait pour ses idées. Mais là, si on veut que notre enfant retire ça, cette idée de persévérer, même quand les mathématiques, c'est difficile, comment est-ce qu'on fait si on ne veut pas moraliser?
Bien, c'est là que Mason nous dit que ça prend beaucoup de tact. Donc, on doit saisir ces occasions-là. On doit peut-être mettre en lumière certaines choses qui sont apparentes dans la personnalité ou dans l'histoire sans nécessairement commencer à sermonner. Ce que moi, je comprends du fait de sermonner, c'est d'en parler longtemps et de s'assurer que notre enfant l'a compris, de le faire répéter, de lui demander, tu sais, ce genre de dialogue-là, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Je serais assez d'accord, sauf que je pense qu'il faut que je travaille là-dessus. J'ai l'impression que c'est quelque chose que j'aurais tendance à pointer, de faire « Hey, c'était-tu un bel exemple de persévérance un peu? Qu'est-ce que t'as tiré, toi, de ça?
Mais la question serait, est-ce que tu t'exclames devant l'exemple de persévérance parce que toi, elle t'a touché ou parce que t'as vraiment le goût que ton enfant voit ça puis qu'il comprenne lui aussi?
Parce que j'ai vraiment le goût que mon enfant voit ça et comprenne aussi.
Mais quoi que c'est bien aussi de vouloir que nos enfants retirent les bonnes leçons des bons livres, mais je pense que ce que Charlotte veut, c'est qu'on réalise que parler moins, des fois, a plus d'impact, que les idées présentes dans les livres vont souvent avoir beaucoup plus d'impact que ce que nous, on peut dire. Donc, on doit, oui, diriger, oui, présenter, mais pas sermonner, pas répéter à outrance les mêmes concepts. Tout est dans l'équilibre, je pense.
Oui, puis on peut le voir à travers sa narration aussi, si c'est un point justement qu'il va avoir compris et soulevé. Mm-hmm.
Ou peut-être on n'aura pas parlé pendant que ça va s'être passé, mais 2 ou 3 jours plus tard, il va se passer une situation, puis on va pouvoir rappeler à notre enfant, tu sais, l'histoire qu'on a lue l'autre fois, regarde, c'est exactement ça qui est en train de se passer dans notre vie présentement. Donc, des fois, eux-mêmes vont nous rappeler quelque chose. Ah, oh, ça me rappelle telle histoire, ce qu'on est en train de vivre. Donc, des fois, il y a le germe de l'idée qui est dans la tête, puis on ne sait jamais quand est-ce qu'il va fleurir. Mm. D'ailleurs, dans le programme proposé par Miss Mason, il existe de nombreuses possibilités pour développer ce sujet, de manière graduelle et adaptée. L'étude de la citoyenneté est un sujet distinct de l'histoire, mais elle est si intimement liée à la littérature, à l'histoire d'un côté, à l'éthique ou à ce que nous appelons la morale de tous les jours de l'autre, que la division des sujets n'est que symbolique.
Dans les formes inférieures, l'enseignement est naturellement annexé aux autres sujets. Dans les formes supérieures, il est étudié à la fois de manière spontanée, car les opportunités se présentent dans les différentes leçons, et explicitement, par l'utilisation de certains livres traitant, par exemple, d'éthique ou d'économie. Dans les formes 1A et 1B, donc au tout début de leur apprentissage, les occasions se présenteront dans des matières telles que l'histoire, surtout lors des leçons sur des lieux liés à l'actualité, dans la lecture à voix haute de livres à partir desquels les enfants apprennent à apprécier la valeur réelle de grands hommes et de grandes femmes qui ont travaillé et qui se sont battus pour leur pays ou leur prochain, dans la lecture de contes de fées et même dans la poésie. On peut même ajouter que plusieurs opportunités se présenteront dans la vie quotidienne. On a une citation de Mason dans son volume 6 qui nous dit « En forme 1, les enfants commencent à tirer des conclusions sur la vie générale de la communauté à partir des contes, des fables et de l'histoire de certains citoyens qu'ils lisent. »
En forme 2 maintenant, la citoyenneté devient un sujet défini du point de vue de ce que l'on peut appeler l'inspiration de la citoyenneté plutôt que de celui du savoir propre aux citoyens, bien que celui-ci ne soit nullement négligé. Cela vient du volume 6. En forme 2 et 3, le sujet est traité plus explicitement et un champ plus large est offert pour l'enseignement spontané. Non seulement nous devons traiter la citoyenneté pendant les leçons d'histoire, de l'actualité, de poésie, mais la citoyenneté devient une leçon distincte et est élaborée en 2 volets. L'étude de la morale et du gouvernement se fait en premier lieu par l'utilisation de livres sur le sujet, bien évidemment, et deuxièmement par la lecture de la vie de patriotes grecs et romains, de soldats et d'hommes d'État, écrite par Plutarque.
Ces vies de Plutarque sont essentielles au programme Mason, et il est difficile de surestimer leur valeur. Ces vies se présentent comme un vaste domaine de l'éducation en tant que langue, en tant que littérature, en tant que biographie, en tant qu'histoire, mais leur principale valeur éducative est dans ce qu'elles offrent pour la formation de la citoyenneté.
Pensez à l'éventail d'exemples qui peuvent servir d'illustration et d'application dans des vies telles que celles de Jules César, d'Alexandre le Grand, d'Aristide le Juste. Nous allons vous mettre en lien aussi notre version préférée, notre traduction préférée en français des vies de Plutarque. Toujours en forme 3, le sujet est développé par l'introduction d'un livre supplémentaire sur le patriotisme local. Au temps de l'auteur, le livre utilisé était l'Histoire de Londres de Besant. Et par l'étude de l'éthique de base, ce dernier aspect qui touche au rapport à soi-même, est une branche extrêmement difficile et délicate à traiter dans la formation des jeunes enfants. Le livre utilisé est Ourselves de Miss Mason.
C'est le volume 4 de Miss Mason, puis il est malheureusement pas traduit à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'équivalent dans le vaste éventail de livres à notre disposition. Mais il est par contre disponible en livre audio, et on va vous mettre le lien dans les notes de l'épisode.
Ce livre est si plein de suggestions, si direct, si profondément compatissant, qu'il est plus sage de le lire avec les enfants en leur permettant de faire valoir leur point de vue, de poser leurs propres questions et d'exprimer leurs commentaires. Notre travail est de leur donner toute notre sympathie et nos encouragements, en étant toujours prêts à les aider à former leurs pensées quand elle est difficile à exprimer. Nous devrons aussi leur expliquer que, parce que ces idées sont nouvelles et étranges, il est normal qu'elles semblent difficiles à saisir.
On va vous mettre un petit exemple tiré du volume 4. C'est dans ce livre-là qu'elle parle de patriotisme qu'on a cité un peu plus haut. Pour honorer notre pays, il faut une connaissance intelligente de son peuple, de ses lois et de ses institutions, de ses grands hommes et de son peuple, de ses faiblesses et de sa force. On ne fait pas honneur à notre pays lorsqu'on a l'attitude ignorante et impertinente de l'anglais ou du chinois qui croit que naître anglais ou chinois le place à un niveau supérieur à celui de tous les autres pays, qui croit que son pays et son propre gouvernement ont raison en toutes circonstances et que les autres pays et les autres gouvernements ont toujours tort. D'autre part, il faut encore plus se garder de croire que son propre pays et son propre gouvernement ont toujours tort et d'exalter indûment d'autres nations dans le but de déprécier le sien.
C'est tellement un beau livre, Ourselves, rempli de sagesse, puis de points qu'on peut discuter, qu'on ne sera pas toujours d'accord, mais c'est un très beau livre pour apprendre à se connaître nous-mêmes, apprendre à connaître notre prochain. Idéalement aussi, dans notre maison, il devrait y avoir une atmosphère de confiance mutuelle dans laquelle on laisse de côté toute réserve. Tout ce qui nous empêche d'exprimer librement nos pensées les plus profondes, en particulier en ce qui a trait aux désirs spirituels et moraux. Si notre enfant se sent intimidé, s'il sent que ses opinions ne sont pas validées, s'il sent qu'il ne peut pas exprimer ses pensées sans faire rire de lui ou sans qu'on le critique, il se refermera et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Faisons particulièrement attention à notre langage non-verbal et à écouter attentivement et avec intérêt lorsqu'il s'exprime.
En forme 4, le programme était pensé de façon à amener l'enfant, chez qui nous avons travaillé avec précaution de façon progressive depuis plusieurs années déjà, à développer son sens de la citoyenneté, à réfléchir sur le patriotisme. Nous l'amenons à réfléchir et développer son opinion sur l'État et la citoyenneté à travers ses lectures de récits biographiques, ses lectures en littérature, en géographie et en histoire, et par l'étude de quelques livres simples traitant des questions d'économie sociale, politique et d'impérialisme. L'auteur de notre article donne d'ailleurs un exemple de lecture pour un trimestre. On vous a traduit les titres pour que vous puissiez voir quel était le contenu de ce programme-là. Donc, nous avons un livre qui était intitulé « Le citoyen et l'État », un autre qui était « Les devoirs et responsabilités du citoyen anglais », « L'éducation des jeunes dans la République de Platon », « Les héros et la vénération des héros », « La construction de l'Europe de l'Ouest », « L'expansion de l'Angleterre » et « Une Angleterre plus grande ». Je crois que c'est une bonne traduction. Là. C'était « Greater Britain » qui était pour « Great Britain ». C'était le sens que j'en ai tiré. Ces lectures sont vraiment impressionnantes de par leur sérieux, leur complexité. Quel bonheur de pouvoir offrir ce genre de lecture à nos enfants et leur permettre de développer leur compréhension de leurs devoirs en tant que citoyens.
Personnellement, j'aurais tellement aimé qu'on se soucie que je comprenne le monde dans lequel je vis, qu'on me croit capable de comprendre ces sujets qui sont souvent jugés trop complexes pour des ados. Qu'on me donne l'espace et la direction pour former mes opinions, qu'on m'équipe et qu'on me prépare à jouer mon rôle de citoyenne. J'aurais aimé qu'on fasse ça avec moi, dans mon école au secondaire.
On n'a même pas de cours de budget. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un cours? Comment être un bon citoyen?
On peut apprendre des idées vivantes par la bande dans nos écoles parce qu'on lit, on apprend tout ça, mais d'avoir quelque chose qui est expressément conçu dans le programme pour équiper un citoyen à jouer son rôle, je trouve ça beau. Je trouve ça le fun.
Je suis d'accord.
Dans le programme des écoles de Mason, on prévoit que l'enfant doit acquérir des connaissances à une formation à la citoyenneté auprès des bonnes sources, c'est-à-dire via un contact personnel lors de l'étude des livres de littérature, et ce, afin de développer une relation personnelle avec le sujet.
On peut voir dans une telle éducation la promesse de ce futur prometteur que nous attendons tous avec espoir. Ce futur dans lequel notre pays ne sera plus gouverné par la politique des différents partis, mais que chaque citoyen contribuera au bien de la nation et que les dirigeants seront motivés par des motifs droits et purs pour le progrès et la croissance de la nation dans la justice et l'intégrité. On peut rêver, non?
On peut rêver. Tout au long des formes, les meilleurs résultats sont obtenus par la discussion, de simples discussions guidées et dirigées avec sagesse. Lors de ces discussions, les opinions sont écoutées aussi bien que données, les idées circulent et on réussit à créer un sentiment de coopération. Ce sentiment anime l'enfant et il sait que sa pensée a été reçue avec attention et critiquée avec bienveillance. De cette façon, on crée une atmosphère et un esprit de camaraderie, de partage entre citoyens. Et il sera ensuite tout naturel de communiquer ce que c'est vraiment de faire partie d'une communauté. Donc, on enseigne autant par le contenu que par notre attitude et la façon d'enseigner les leçons.
Les enfants aiment vraiment s'ouvrir à un courant de pensée spéculatif et on devrait leur en donner l'occasion parce que malgré leurs nombreuses erreurs de raisonnement et les envolées de leur imagination à cause de leur manque d'expérience, c'est comme ça qu'on leur permet d'améliorer leur capacité de réflexion, leur capacité de raisonnement, de retenue, d'équilibre. Et nous bénéficions aussi de ces échanges. De plus, il faudrait également s'efforcer d'inculquer une passion pour la justice. Il est primordial de se garder des jugements faciles et généralisés. Ces deux principes, soit justice et tolérance, constituent certainement les fondements de la vie privée, sociale et nationale.
Encore, nous devons faire preuve de prudence en exprimant nos opinions. On doit faire des efforts pour rester vigilant pour ne pas trahir notre opinion à propos du sujet à l'étude. On doit essayer de donner le plus grand nombre de positions différentes et de citer le plus d'opinions variées possible, en soulignant que tous ont le droit de penser comme ils l'entendent, à condition qu'ils aient réfléchi soigneusement et profondément au sujet et qu'ils l'aient fait pour eux-mêmes.
J'ai en tête une blogueuse qui disait que son enfant avait repris l'une de ses opinions à elle. Elle avait dit « Non, non. Comment ça tu penses à toi? C'est mon idée. Va faire tes devoirs, réfléchis. Et ensuite, tu pourras exprimer ton opinion si c'est la même. C'est correct, mais si c'est différent, là, on va pouvoir discuter. T'as pas droit à ton opinion tant que t'as pas fait le travail de réfléchir. »
L'esprit critique est important, même quand c'est nos opinions que nos enfants reprennent. On ne voudrait pas qu'ils reprennent une opinion dans le journal comme ça, gratuitement, sans y avoir réfléchi, mais on doit les entraîner à le faire aussi avec nos opinions.
Oui, puis d'ailleurs, l'auteur de l'article nous le dit. Les enfants sont si réceptifs, si prêts à assimiler, si profondément impressionnables que je considère que la manière dont la matière est amenée et l'attitude de l'enseignant à l'égard des questions posées sont d'une importance vitale dans le succès de l'éducation des enfants. Et je me permets d'insister sur la grande responsabilité et la vigilance bienveillante requise.
Pour vous guider lors de l'élaboration de votre programme éducatif, les élèves de forme 2 et 3 avaient une leçon de 30 minutes par semaine et les élèves de forme 4, 5 et 6, deux leçons de 40 minutes. Le programme proposé par Charlotte Mason est vraiment étoffé et permet de mettre tout en place pour que nos enfants deviennent des citoyens avisés, avec tout ce que ça comprend, tout en laissant la place au développement individuel de chacun. Premièrement, le programme est rempli d'idées vivantes et d'exemples à suivre ou à éviter, dépendamment du cas. Le livre Ourselves aide à nous comprendre et à nous connaître nous-mêmes. En lisant les vies de Plutarque, on voit beaucoup d'exemples, bons et mauvais, de différents leaders dans différentes situations. Les livres supplémentaires lus pendant la leçon de citoyenneté nous aident à connaître les lois, les coutumes de notre pays, comment l'économie et le gouvernement fonctionnent, les différents types de gouvernement et les différentes idées politiques, et plein d'autres choses. L'étude de l'histoire nous aide à voir l'avenir avec plus de sagesse, de discernement. Suivre l'actualité nous aide à comprendre les enjeux sociaux. Donc, c'est vraiment « well-rounded », comme les anglophones diraient.
Ah oui, c'est un programme complet. Puis le but de la citoyenneté est, selon Mason, la magnanimité. Ça peut être résumé par deux commandements là, qu'on retrouve dans la Bible, soit aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Magnanimité veut littéralement dire, si on prend mot par mot, grandeur d'âme.
On se doit d'éduquer nos enfants avec beaucoup plus que juste leur future carrière en tête. Leur développement moral est tout aussi important que leur développement intellectuel.
En conséquence, l'enseignement à la citoyenneté a pour but de former la personnalité, d'ouvrir les yeux et le cœur à des qualités telles que la loyauté, la noblesse, la galanterie, l'éthique, le sens du devoir, le sens de l'honneur, le respect, l'obéissance. Et malgré que c'est assez controversé comme idée dans notre société, l'éducation à la citoyenneté nous pousse à ne pas nous soucier seulement de nos droits, mais aussi, et peut-être même plus, de ceux des autres. On peut dire quel est le pont entre la théorie apprise dans les livres et la pratique au quotidien.
Voilà ce qui conclut ce sujet si important, mais qui est bien souvent laissé de côté. Comme toujours, vous trouverez les citations et les liens dans les notes de l'épisode sur notre site web. Rejoignez-nous au prochain épisode d'Un festin d'idées.